Bonsoir, merci d'être aussi présent à cette masterclass qui est l'un des temps forts de cette rétrospective. Nikolaus Geyerhalter, Homo sapiens, donc, qui se déroule jusqu'au 15 mars. Et à cette occasion, on a la chance de pouvoir vous présenter l'intégralité de l'œuvre du cinéaste autrichien. Et donc, quand je dis intégralité, il y a de nombreux films qui ont été peu ou pas du tout montrés en France. Donc je vous invite évidemment à suivre toute la rétrospective dans son ensemble. Donc aujourd'hui, la parole est donnée évidemment au cinéaste qui est parmi nous. Et puis, je voudrais avant de commencer remercier l'animatrice de cette table ronde. Masterclass, conversation, les termes sont nombreux. Donc Christa Blumlinger, qui est professeure à l'Université Paris 8 et spécialiste du cinéma autrichien et des formes du documentaire, et qui sera traduite par Cornelia Geyser, qui a commencé déjà son travail. Vous la voyez, elle murmure à l'oreille du cinéaste. Donc sans plus tarder, car nous devons avoir terminé cette masterclass à 19h45, puisque après nous devrons sortir de la salle, puisque comme vous le savez, il y a une projection qui est prévue à 20h, projection du film de Nikolaus Terre, et qui sera présenté évidemment par lui-même. Donc je cède immédiatement la parole à Christa, et je la remercie encore. Merci encore.
Merci Julien pour cette introduction, et moi j'ai le plaisir donc de présenter, en fait de entamer une conversation. On vient de se dire avec Nikolaus Geyerhalter qu'on préfère le terme Werkstattgespräch, conversation d'atelier, peut-être un masterclass. On parle de la fabrique des films, on parlera de la fabrique des films depuis les années 90. Et je remercie à mon tour Cornelia Geyser qui fait l'effort donc de nous traduire. Alors, pour commencer, même s'il y a une très belle présentation sur le site du Centre Pompidou, je voudrais présenter brièvement cette œuvre qui est déjà vraiment imposante par trois lignes que je détecte, mais ça pourrait être d'autres lignes encore. On verra au fil de la conversation avec Nikolaus Geyerhalter. Trois lignes qui vont être approfondies à partir de quatre exemples, si on a le temps de les montrer, quatre séquences des films, pour parler plus précisément de la fabrique de ces films. Je commence avec une ligne qu'on a pu voir récemment, qui est la longue observation, l'observation au fil des ans. D'ailleurs, le titre, le film, il y a un film qui s'intitule « Au fil des ans » et que Nikolaus Geyerhalter a filmé pendant 10 ans. C'est en soi une manière de travailler très particulière. Deuxième type de film qui fait peut-être un pôle dans l'œuvre, ce sont, si je pense ces films à partir de leur mode de tournage, ce sont des films qui parfois sont motivés par des, je dirais, des configurations politiques, parfois actuelles, mais qui nécessitent toujours un temps d'investigation. Et prennent ensuite, sur le plan du tournage, la forme d'une expédition. Je pense à Pripyat, dont on va voir un exemple tout à l'heure. Donc, sur le site de Tchernobyl, la centrale nucléaire qui a connu une avarie. Ou encore l'année après Dayton. À propos des accords de paix après la guerre en Bosnie-Herzégovine, ou encore, on pourrait dire aussi, ce film qui s'intitule « Le post-frontière, die bauliche Maßnahme ». Et puis, je vois un troisième type de film, toujours peut-être dans son articulation ou par rapport à son articulation entre tournage et montage, des films qu'on pourrait appeler symphoniques, qui sont plutôt déterminés par un sujet ou un motif et qui se composent comme des mosaïques et portent sur une thématique plutôt abstraite ou proposent une sorte de synthèse sur un thème très complexe comme Abendland, Occident, ou notre pain quotidien, Unser täglich Brot, qu'on va voir, dont on va voir un extrait tout à l'heure, ou encore Homo sapiens, ou encore Ailleurs, Anderswo, le film pour lequel tu as tourné pendant 12 mois sur 12 endroits dans le monde entier pour explorer des conditions de vie extrêmes. Mais dans d'autres films récents, tu as exploré le motif de la ruine dans des sites post-industriels, par exemple. Alors, ma première question... ou la question qu'on va poser tout au long de cette conversation à partir des extraits, qu'on va voir, comment est-ce que la production de ces films s'organise? Je pose la question aussi parce qu'il est intéressant de savoir qu'il y a la Nikolaus Geierhalter Film Production, c'est le nom de sa maison de production. Donc depuis son premier film échoué, Angeschwemmt, le cinéaste s'autoproduit, mais il n'est jamais seul. Alors la question est, comment est-ce qu'il travaille en équipe? Depuis le premier film, on a vu sur le générique Wolfgang Wiederhofer, qui s'occupe du montage. Lui-même signe la caméra, il est opérateur, mais il y a aussi un grand nombre de collaborateurs, collaboratrices, qui, par exemple, signent pour la recherche. Donc, il s'agit d'une œuvre multiprotéiforme et il y a cette maison de production a une productivité assez impressionnante. Plus que 70 films documentaires pour le cinéma et la télévision, jusqu'à des films qui sont tournés par d'autres cinéastes comme Alpenland, le film de Robert Chabus de cette année, qu'on va voir aussi dans la rétrospective. Alors, ma première question, avant de montrer un premier exemple que je pose à Nikolaus Geierhalter, c'est pour comprendre un peu le mode de travail, la relation entre ce qui est tourné et ce qui est monté. Est-ce que tu peux chiffrer le ratio, das Drehverhältnis, de tes films, à commencer avec Au fil des ans?
Guten Abend erstmal. Also, seit ich nicht mehr am Film drehe, und das ist schon lange her, weiß ich vom Drehverhältnis gar nichts mehr. Zu den Zeiten, als auf Film gedreht wurde, war einfach jede Minute Filmdrehen wirklich teuer. Und dann hat man genau gewusst, diese Rollen hat man verbraucht und davon kommt dann irgendwas in den Film. Und da hat man einfach sehr mitgezählt. Inzwischen ist es ein Haufen Festplatten und am Ende ist ein fertiger Film. Ich rechne nicht mehr nach.
Tout d'abord, bonsoir. Je ne peux rien vous dire sur ce ratio parce que, en fait, depuis que je ne tourne plus sur la pellicule, je ne compte plus. Quand on avait les rouleaux de pellicule, bien sûr, chaque minute était précieuse et on comptait les rouleaux. Mais depuis, on a les disques durs et on a juste des disques durs et on compte plus.
Aber man rechnet Drehtage. On compte les jours de tournage quand on part. Et là, une journée n'a qu'un nombre d'heures limité. Est-ce qu'il y a des modes de production variables?
Ja, das gibt's. Also, dadurch, dass ich hier bei meiner eigenen Firma produziere und wir irgendwie eine Gruppe von Menschen sind, die auch befreundet sind und auch die Leute, mit denen ich auf dem Set arbeite, einfach Leute sind, die ich gut kenne, ist es so, dass wir, glaube ich, alle relativ flexibel sind und einfach arbeiten, bis das Ding gemacht ist. Ja. Ich kenne Produktionen, wo wirklich im Spielfilmbereich natürlich halbstundenweise gezählt wird, bis die Arbeitszeit um ist, und das macht alles extrem unflexibel. Auf meinen Drehs passiert das eigentlich nicht. Aber wenn man es dann am Ende zusammenrechnet, haben wir auch nicht länger gearbeitet, als man eigentlich sollte. Es ist nur viel angenehmer.
Donc oui, il y a des modes de production différents. Mais ma société de production est composée d'un groupe d'amis. Toutes les personnes qui sont sur le tournage, je les connais bien. Et on travaille tous jusqu'à ce qu'on a fini le projet. Je sais que très souvent, dans les productions de films de fiction, on compte vraiment chaque demi-heure de travail. Et on fait son travail obligatoire et pas plus. Mais si je regarde le résultat et si je résume le nombre d'heures qu'on a passé ensemble, je crois qu'on n'a même pas tellement dépassé les horaires réglementaires.
Und es ist ja Drehtag auch nicht gleich Drehtag. Also ein Drehtag, der mit einem großen Team kalkuliert ist, irgendwo im Ausland, wo 5-6 Leute involviert sind, kostet ja ungleich mehr, als wenn ich für ein Bild manchmal mich selber ins Auto setze und das alleine mache, einfach weil ich genau weiß, ich brauche ein Bild und da brauche ich kein Team dabei oder so. Ja. Also im Endeffekt geht es auch gar nicht darum, Drehtage zu zählen, sondern es geht einfach darum, ein Budget sinnvoll zu verbrauchen. Und da können viele teure oder noch viel, viel mehr billige Drehtage rausschauen.
Donc les frais pour un jour de tournage ne sont pas identiques. Si je pars à l'étranger avec une équipe de 5-6 personnes, bien sûr, ça me coûte beaucoup plus cher que quand moi-même j'ai besoin de faire une image. Je peux partir sans équipe, je fais ça tout seul. Et la question est plutôt une utilisation sensée d'un budget. Et on peut sortir avec cette précaution des journées de tournage assez nombreux pour finir un projet.
Und noch einmal auf die Frage des Drehverhältnisses zurückzukommen. Es ist einfach so, dass jetzt, wo wir digital drehen können, wo das endlich einigermaßen funktioniert, sich das Arbeiten ein bisschen verändert hat, weil man sich leisten kann, auf Momente zu warten. Das gab es beim Dreh auf Film nicht. Da hat man eingeschaltet und gehofft, das passiert in den nächsten 3 Minuten, und wenn es nicht passiert ist, dann hat man es halt nicht gehabt. Und jetzt, wenn jetzt die Kamera eine Stunde durchläuft, weil ich weiß, da wird ein schöner Moment dabei sein und wir haben die Zeit zu warten, kostet das de facto nicht sehr viel Geld. Und natürlich erhöht das Drehverhältnis am Schluss sehr. Aber das liegt eher daran, dass wir einfach manchmal dem Zufall mehr Chancen geben können.
Donc maintenant qu'on peut vraiment bien tourner en numérique, ça a un peu changé notre manière de travailler. On peut se permettre d'attendre. Avant, quand on tournait sur la pellicule, on ne pouvait pas se permettre d'attendre que quelque chose arrive. On mettait la pellicule et on espérait que quelque chose se passe. Et s'il ne se passait rien, on n'avait rien, tant pis. Alors que maintenant, avec le numérique, on peut laisser tourner la caméra pendant une heure et espérer que quelque chose se passe. Et bien évidemment, cette possibilité augmente la ratio de matériel tourné. Mais je crois que c'est plutôt cette chance de pouvoir attendre qui est le grand changement.
Veux-tu nous dire quelque chose?
Alors, je propose qu'on va maintenant approfondir ces questions à partir d'un exemple. Car s'il y a du hasard dans les films de Nicolas Cage, comme dans tout documentaire, voire même dans les fictions, il y a aussi beaucoup de soins formels de composition. Alors, je propose de montrer un extrait de Notre pain quotidien, film de 2005. On va voir un extrait qui nous mène vers l'agriculture industrielle. Nous avons choisi cette jonction de deux séquences. Enfin, le début est d'ailleurs assez hitchcockien de cette séquence sur la récolte. Parce que, enfin, ce qui m'a intéressé, c'était vraiment l'intérêt qui est porté sur le geste, de ces travailleurs qui sont liés aux machines. Le mode d'observation est vraiment lié au processus de ce travail ininterrompu. Un plan particulièrement long nous montre justement comment ce travail à la chaîne, on pourrait dire, ou à Quartarbeit, enfin qui est cadencé, s'effectue aujourd'hui. Et le dernier plan nous montre aussi de cette séquence de la récolte des choux-fleurs, la dimension monumentale de la machinerie agro-industrielle. Alors ma question que je voudrais poser, c'est que ce plan qui nous fait découvrir ces travailleurs précaires là, qui font la récolte, est tellement précis du point de vue de la lumière, enfin de l'éclairage, de sa durée, du cadrage parfaitement composé, mais aussi par rapport à la mise en scène de ce qui se passe comme mouvement à l'intérieur ou comme événement, comme action à l'intérieur du cadre. Alors, comment est-ce que de tels plans se tournent? Comment est-ce que tu prépares un tel tournage?
Also ich glaube, der wesentliche Punkt der Vorbereitung ist eine Recherche, die Zugang verschafft. Ich habe das Gefühl, wenn man einmal an einem Ort ist, an dem man drehen möchte und wenn man sich dort frei bewegen kann, dann ist eigentlich das Schwierigste schon geschafft. Der Zugang und das Vertrauen der Firmen, der Pressemenschen, der Firmeninhaber zu gewinnen dafür, dass wir dort nichts Böses tun wollen und uns aber einfach sozusagen, ohne dass uns dauernd jemand hinterfragt, frei bewegen wollen, wenn wir schon da drehen. Das ist eigentlich immer mehr die erste Stufe, die man erledigt werden muss.
D'abord, la chose la plus importante, c'est de faire la recherche qui donne accès à ces lieux où on veut tourner. Et je veux dire un accès libre qui permet de bouger librement, de se mouvoir librement, d'avoir gagné la confiance des entreprises, de leurs services de presse et aussi des collaborateurs. Une confiance qu'ils nous font, qu'on ne veut rien faire de mal chez eux.
Und dann gibt es natürlich Drehbedingungen, wo man einfach schnell sein muss. Aber so etwas wie hier, diese Erntemaschine, die so ganz langsam weiterfährt und diese Erntearbeiter, die auf den Knien dahin kriechen und das mehr oder weniger stundenlang, das ist natürlich traumhaft zum Arbeiten, wenn man erstmal beobachten kann und sich das dann wirklich kurz im Kopf überlegen kann, wie man es macht, wenn man nichts verliert. Ja? Wenn man es genau planen kann, wenn man weiß, man kann die Kamera hier hinsetzen, man kann sie nachher noch da hinsetzen, man wird nichts versäumen. Also das sind Bedingungen, die natürlich selten angenehm sind.
Donc il y a des conditions de tournage dans lesquelles il faut agir très vite, mais là on a l'opportunité de prendre son temps parce que les processus se déroulent lentement, donc on peut déjà regarder, réfléchir où on place la caméra et donc planifier exactement ce qu'on veut faire.
Also Vorgänge, die sich wiederholen und die berechenbar sind, sind einfach generell natürlich ein Geschenk zum Arbeiten.
Donc des processus qui se répètent, qui sont calculables, c'est vraiment un cadeau pour le travail.
Weil es natürlich vorkommt, dass man Dinge wiederholen muss oder auch zum Schnitt Dinge aus verschiedenen Perspektiven drehen muss. Und in diesem Fall muss man niemanden bitten, Dinge einfach nochmal zu machen oder so. Ja, da kann man einfach wirklich niemanden, ohne dass man jemanden stört, einfach in aller Ruhe sozusagen Dinge umsetzen.
Et bien sûr, ça arrive qu'on doit répéter des choses ou répéter des choses pour le montage. Et dans ces conditions particulières, c'est vraiment agréable de travailler parce qu'on peut vraiment mettre en œuvre ce qu'on a en tête sans demander des répétitions et sans déranger les personnes.
Merci. Enfin, on va poser d'autres questions par rapport à d'autres plans qui sont toujours si aussi bien composé et aux soins que tu portes vers cette relation entre, je dirais, l'homme et son milieu. On pourrait constater une sorte de ligne écologique dans ton œuvre qui mène de Pripyat, ou même ton premier film échoué, Angeschwemmt, et Allensteig vers Erde, Terre, et Matter Out of Place, ou un film comme Anderswo, ailleurs, où on découvre la Terre comme une matière qui est plutôt barrée, qui n'est pas accessible, ou qui est asphyxiée, qui est exploitée, qui est contaminée, qui accueille les déchets. Alors, une question avant de passer vers un autre exemple serait comment est-ce que cette ligne que j'appellerais écologique dans ton œuvre s'est développée? Et est-ce que tu vois toi-même au sein de ton œuvre, de ton travail de trois décennies, voire plus, en dialogue avec des débats ou des discussions écologiques ou sur l'écologie? Ou est-ce que tu vois un écho?
Ja, ich glaube schon, dass sozusagen einfach das Phänomen Mensch und Menschsein und Menschheit und Spezies Mensch mich interessiert. Ja? Und dann natürlich immer im Hinblick auf die Auswirkungen, die unsere Existenz auf alle anderen Lebewesen und Pflanzen auf dieser Welt hat. Ja? Deswegen finde ich auch, wenn ich Interviews zum Beispiel drehe, ist immer wichtig, dass die Personen jetzt nicht nah kadriert sind, sondern mit einer weitwinkligen Optik einfach wirklich in der Umgebung stehen, von der sie erzählen und in ihrem Environment sozusagen stehen oder sitzen. Einfach, dass man schon mal mitkriegt, mit was für einer Landschaft, mit was für einer Umgebung stehen diese Menschen in Bezug. Weil es einfach ums Spuren hinterlassen geht. Was für Spuren hinterlassen wir?
Oui, je crois que de façon générale, on peut dire que je m'intéresse à l'être humain, à l'espèce humaine et son rapport avec ce qui l'entoure, avec les plantes, la nature, les autres êtres vivants sur la planète. Et c'est pourquoi il est important pour moi que les personnes ne sont pas cadrées trop près, qu'on voit toujours dans quelle sorte d'environnement ils se trouvent. Et de quoi ils vont parler.
Also ich glaube, es geht sehr oft wieder darum, ja, einfach ein bisschen besser zu verstehen, wie wir ticken und was wir tun. Und das kann man sich von ganz vielen Aspekten, von ganz vielen Richtungen anschauen. Das kann man sich über Auswirkungen anschauen, das kann man sich über Spuren anschauen, das kann man sich über die Gegenwart anschauen. Aber eigentlich ist natürlich indirekt immer der Mensch im Mittelpunkt. Auch wenn ich manchmal Filme mache, wo kein einziger Mensch vorkommt.
Oui, dans mes films, je voudrais simplement comprendre mieux comment on fonctionne, comment on agit, et on peut le faire de maintes manières. On peut regarder les effets de notre agir, les traces, on peut regarder le présent, mais peut-être on peut dire que toujours l'homme est au centre de mes préoccupations.
Comme dans Homo sapiens, est-ce que tu te vois comme une sorte d'archéologue du futur, archéologue de la Zukunft?
Ja, also ich sehe eigentlich alle Filme, die ich mache, auch als Filme für zukünftige Archive, als Filme, in denen zukünftige Generationen irgendwann einmal nachschauen können, was wir damals so gemacht haben, weil ich auch glaube, dass Filme, die in Zukunft sinnvoll lesbar sein müssen, einen Stil haben, der irgendwie universell ist, der aus der Zeit steht und der auch so simpel unter Anführungszeichen gehalten ist, dass tatsächlich das Material auch noch eine Wertigkeit hat mit in Zukunft, das darin enthalten ist.
J'ai oublié de traduire la dernière phrase de la réponse précédente. L'homme est toujours au centre, même si on ne le voit pas forcément dans l'image. Et maintenant, la deuxième réponse, oui. J'ai effectivement cette idée de constituer des archives pour le futur, pour que des générations futures puissent vraiment regarder comment nous avons vécu, et pour que ces films puissent être lisibles pour des générations futures, ils doivent avoir un style très dépouillé, très simple, qui rend donc cette lecture possible dans le futur.
On pourrait peut-être dire avec Philippe Descola que tu t'intéresses à la constitution d'un mobilier de nos mondes par les hommes. Donc il y aurait un aspect qui va frontalement s'intéresser dans ton travail qui va s'intéresser frontalement à ces mondes formés par les hommes, mais il y a aussi un intérêt porté vers la figuration formelle de ce monde, qui est porté vers la question comment ce mobilier se montre à travers les créations humaines, ou comment on peut le regarder. Et il me semble que le regard, ton regard, est extrêmement important, et aussi l'aspect formel de la construction de ce regard. Et à part les aspects écologiques, ce qui importe aussi dans tes films, me semble-t-il, parfois ce sont des aspects mythologiques. C'est-à-dire, tu montres le réel, mais tu t'intéresses au regard, à la manière dont nous percevons notre milieu, et dont nous constituons nos mondes. Alors peut-être que Angeschwemm, ton premier film, Échoué, en est un bon exemple, parce que là, il y a des rites que tu vas observer, des rites funéraires, mais au sein d'un milieu, au sens écologique du terme. Il s'agit de faire le portrait d'une région d'un milieu près de Vienne, au bord du Danube, un très beau paysage où de temps en temps il y a des morts qui échouent, et où on s'occupe justement de ces morts. Alors, nous allons voir la fin de ce film dans une séquence un peu plus longue que ce qu'on a vu là. Ou peut-être juste pour expliquer le contexte, où on rend hommage aux victimes du fleuve, enfin à ceux qui ont été, qui ont péri ou qui ont surgi de ce fleuve, du Danube. Et c'est aussi le moment, la fin du film, où on va revoir une dernière fois, où on va faire le tour de ce petit monde que tu présentes, qui se trouve donc au bord du Danube. Par exemple, un sans-abri qui vit sous un pont, la Praterbrücke, un couple slovaque qui s'occupe d'un bateau, et encore le personnage principal, Josef Fuchs, qui est Totengräber, enfin d'un coup, qui est gardien du cimetière de ce petit endroit. Alors, peut-être on regarde l'extrait pour en parler ensuite, très concrètement, de la manière dont tu montres ces personnes dans leur milieu. Donc, c'était la fin du premier film de Nikolaus Geierhalter, Échoué, de 1994. Et là, vous avez vu un exemple de comment il compose déjà, dans des plans plutôt larges, une relation entre l'homme, des hommes et des femmes, et leur milieu. Le tout dernier plan m'intéresse particulièrement. Le personnage nous tourne le dos et son regard conduit notre attention et pas seulement notre sensibilité par rapport à ce paysage fluvial marécageux, mais c'est aussi quelqu'un qui écoute, me semble-t-il. Et Nicolas Geirhardt, qui a tourné, qui était déjà derrière la caméra pour son premier film, et qui n'a jamais arrêté de tourner lui-même, il a travaillé aussi avec des enregistreurs de son. Et si je ne me trompe pas, dans le générique de fin de ce film, on peut lire sept techniciens différents qui ont travaillé avec toi pour enregistrer le son. Le film, il commence avant de nous montrer, de nous laisser voir quelque chose. On entend déjà des sons, des bruits. Donc c'est un film qui nous rend vraiment sensibles. Alors comment est-ce que tu as travaillé? Pourquoi ce grand nombre d'ingénieurs de son?
Das war mein erster Film. Und bevor ich diesen Film gemacht habe, war ich kein Filmemacher. Und niemand von den Leuten, die hier mitgearbeitet haben, hatten eine Ahnung von irgendetwas. Wir waren eine Gruppe von Freunden. Ich habe halt gesagt, ich mache die Kamera. Andere haben gesagt, okay, ich halte das Mikrofon. Ein Dritter hat das Stativ getragen. Und dann haben die sich abgewechselt. Bei diesem Film hat der Wolfgang Wiederhofer, der später für eine Filmschneide zum Teil noch Ton gemacht, das ist wirklich der Anfang von etwas, wo wir als total naive Leute zwar schon einen Film machen wollten, aber hauptsächlich ging es einfach darum, das Ding irgendwie zu machen. Und wer halt gerade Zeit gehabt hat, ist mitgefahren. Deswegen so viele Menschen.
C'était mon tout premier film et avant de faire ce film, j'étais pas du tout un réalisateur, on était un groupe de copains. Et on a voulu faire ce film. Et ceux qui avaient le temps m'ont accompagné. Et c'est pourquoi on lit autant de noms, parce que tout le monde n'était pas disponible au même moment. Et Wolfgang Wiederhofer était déjà là. Et il tenait parfois le micro. Il est devenu après quelqu'un de très important pour le montage de mes films. Mais on a changé. Il y avait ceux qui portaient le trépied, ceux qui portaient les autres pièces de l'équipement. Donc on était juste un groupe de copains qui essayait de faire un film.
Also, es stimmt, dass mir Ton extrem wichtig ist, Originalton. Ja? Auch jetzt, wenn ich arbeite, wir nehmen Dolby, also wir mischen in Dolby Atmos und wir nehmen vor Ort immer Surround-Ton auf, weil ich einfach finde, dass ein guter Originalton im Kino einfach ganz wichtig ist dafür, dass Landschaften insgesamt funktionieren. Da geht es nicht nur um das Bild, da geht es auch um den Ton. Aber aus Angestimmung, aus diesem Film würde ich genau gar nichts ableiten. Das einzige Ziel von diesem Film war, dass am Ende existiert.
Donc on peut dire que le son direct a toujours été extrêmement important pour moi. On fait le mixage en Dolby Surround, donc je pense que l'entourage sonore est extrêmement important pour moi et pour mes films. Mais de ce premier film échoué, je crois qu'on peut absolument rien déduire.
C'est peut-être aux critiques de déduire quelque chose, de voir dans ce portrait d'un homme par le dos, enfin de ce regard, la manière de composer cette relation entre l'homme et son milieu, se dessine une œuvre. Évidemment, rétrospectivement, on voit déjà un style qui, sans doute, est aussi marqué par une expérience, par une connaissance de l'histoire de la photographie. On en parlera tout à l'heure, peut-être, ou de la peinture. Mais ce qui me semble important, c'est de voir qu'il y a déjà une sensibilité pour la durée des plans. une temporalité dans l'observation à la fois des mouvements, mais aussi des portraits, parfois statiques, mais à qui tu donnes le temps de respiration. Et ça marque le rythme du film. Est-ce que tu te rappelles encore des décisions que tu as prises à l'époque? Est-ce que c'était intuitif? Parce que tu as tourné, ce film a été encore tourné sur du matériel analogique, sur film 16 mm. Et ce qu'on voit aujourd'hui, ici, c'est une copie DCP restaurée qui n'a pas le même grain que ce film qui est sorti à l'époque. Donc tu as dû prendre des décisions aussi de tourner en noir et blanc. Est-ce que tu peux en dire un peu plus de comment tu as travaillé justement avec ces plans qui durent, cette composition en noir et blanc?
Das sind jetzt viele Fragen auf einmal. Also von hinten nach vorne. Ich komme ja von der Fotografie und ich finde bis heute noch, dass in einem Schwarz-Weiß-Foto auf irgendeine Weise mehr Realität enthalten ist als in einem Farbbild. Das kann man nicht erklären, aber durch die Abstraktion kriegt das Bild in der Sekunde, in der es dann sozusagen entwickelt ist, schon so einen etwas Historisches, auch wenn es noch Gegenwart ist. Also ich bin ein Freund von Schwarz-Weiß-Fotografie und das hat jetzt nicht nur praktische Gründe bei diesem Film, sondern wirklich auch, dass ich das so wollte, ja.
Ok, c'est beaucoup de questions et on va commencer par la dernière. Donc, je viens de la photographie et j'aime le noir et blanc et je trouve que une photo noir et blanc contient peut-être plus de réalité déjà qu'une photo en couleur, bien que ça soit tout de suite historique, ça contient encore quelque chose du présent.
Und dann war das so, dass ich mir halt eingebildet habe, Filme machen zu wollen zu einer Zeit, wo das wirklich technisch noch harte Arbeit war. Ja? Da gab es eben diese 16mm Kameras, die immer noch sehr schwer waren und einige Beispiele von Filmemachern, die dann auf die Schulter genommen haben und das waren alles sehr wackelige Reportagebilder, wo es auch um die Leistung ging, halt möglichst nah mitzufilmen, aber das waren keine schönen Bilder, das war einfach, da ging es einfach darum, es festzuhalten. Ja? Und das weiß ich jetzt schon, dass mich damals zum Beispiel Ulrich Seidel sehr beeindruckt hat, weil der eigentlich in meinen Augen der Erste war, der wirklich seinen Kameraleuten gesagt hat, okay, wir machen jetzt eine ganz langsame, ruhige Handkamera, die wie eine Steadicam dahin schwebt und die auch noch ein Schlussbild hat, die sich als künstlerisches Werk versteht, dieses Bild, ja, und nicht nur etwas abbilden will. Und das auf 16 Meter umzusetzen, ist tatsächlich gar nicht so einfach. Und das war schon etwas, wo ich auch hin wollte. Ja. Und dann kommt da automatisch eben der Zeitfaktor dazu, dass diese Dinge Zeit brauchen. Und dass eben in diesem puren Abbilden der Wirklichkeit, ohne dass irgendwie Musik und sowas dazukommt, in diesem Vorgang, das finde ich schon auch einen sehr, unter Anführungszeichen jetzt, künstlerischen Prozess. Ja, das ist wie ein schönes Foto, wie ein gutes Foto machen. Das macht man auch in Ruhe und schaut sich es auch lange an. Also Zeitdauer war schon von Anfang an etwas, was mir wichtig war.
Donc, quand j'ai commencé à faire des films était encore un travail physique intense. Les caméras 16 mm étaient des machines assez lourdes et les mettre sur l'épaule donnait des résultats. On faisait plus ou moins des reportages pour fixer des instants, mais esthétiquement parlant, ce n'était pas de très belles images. Et un des premiers qui m'a beaucoup inspirée à l'époque était le réalisateur Ulrich Seidel, qui a utilisé la caméra à l'épaule de façon très lente et pour des prises très, très longues, comme une Steadicam. Et avec les 16 mm, c'était encore très, très difficile pour bien le faire. On avait besoin du temps. Et c'est ainsi que la dimension du temps est immédiatement entrée dans ma façon de faire. Et j'ai essayé d'obtenir cet effet de la même façon qu'on fait par exemple une photo en noir et blanc. On prend son temps pour faire la prise et ensuite on prend le temps pour regarder, et là on a déjà un début de processus artistique.
Also wenn ich das jetzt sehe, dann sehe ich auch Stilelemente, die bis heute da sind. Ja, und finde das auch fast ein bisschen erschreckend, wie wenig ich mich weiterentwickelt habe, wenn man das so sagen will. Aber es ist und bleibt der allererste Film, und ich sehe vor allem ganz, ganz viele Ungenauigkeiten, Dinge, die ich heute anders machen würde, im Detail, Blickrichtungen, die ich anders machen würde, Bilder, die ich anders kadrieren würde. Also das Gute an diesem Film ist, dass er existiert. Ja? Aber ich würde ihn jetzt nicht meiner Visitenkarte herzeigen. Es ist wirklich ein Herantasten an ein Medium-Film, ja? Ein Beherrschen, Lernen von einem ziemlich komplexen Arbeitsvorgang eigentlich.
Donc, quand je regarde ça, oui, effectivement, il y a des éléments de style que j'ai conservés. Et je suis presque un peu effrayée à penser que je n'ai pas beaucoup évolué. Mais c'est mon premier film. Si je regarde ce film en détail, il y a beaucoup de choses que je ne ferai plus de la même façon, des cadrages, des points de vue, etc. Et son grand mérite est d'exister, mais je ne le montrais pas comme ma carte de visite. C'était plutôt une tentative de m'approcher de ce processus incroyablement difficile qui est de faire des films.
Bon, c'est peut-être à nous d'apprécier la grande beauté de ce film et son charme aussi, sans doute. Et le milieu que tu montres, qui n'existe plus aujourd'hui, et j'imagine aussi que la plupart des personnes dont tu as dressé le portrait ne sont plus de ce monde. Ce qui rejoint ce que tu as dit tout à l'heure. On filme la mort au travail quand on filme. Phrase de Cocteau, je crois. Mais pour revenir sur cette question qui est en un sens déjà implicite dans ce film, qui montre un milieu, un paysage qui à l'époque avait été préservé d'ailleurs par des mouvements politiques et civils contre un barrage près de Vienne. Dans beaucoup plusieurs de tes films, il s'agit de travailler sur des questions de préservation de la nature ou des frontières, des films qui portent sur la construction de l'imaginaire ou sur la légitimation des frontières. L'année après Dayton, Hallensteig, Pripyat, dont on va voir un extrait tout à l'heure, s'il nous reste du temps, je pense que oui, ou encore Le poste frontière tourné à la frontière autrichienne. Alors, l'exemple avec lequel je voudrais enchaîner est plutôt un film symphonique ou mosaïque, mais qui implique aussi ces questions, à la fois, ces questions de la construction de l'imaginaire, à la fois par rapport à notre milieu ou nos milieux écologiques et par rapport aux frontières. Donc nous avons choisi deux séquences où tu traites notre manière de gérer le phénomène de la migration, des demandeurs d'asile, les frontières de la forteresse Europe. Et une autre séquence où justement qui enchaîne avec des questions écologiques qui dépassent les frontières. Alors peut-être avant de passer l'extrait, justement, c'est Cornelia Geiser, la traductrice, qui m'a pointé la question de la traduction de Abendland par Occident. Ce sont donc dans allemand, Abendland implique la notion Abend, soir, nuit. Donc c'est un film qui prend peut-être la notion au pied de la lettre, et en même temps, Abendland signifie aussi une situation ou un point de vue géologique eurocentré. Est-ce que tu veux dire quelque chose sur le titre avant qu'on passe l'extrait ? On peut aussi juste pointer la différence, mais c'est un choix. On parle tout à l'heure.
Also mit Filmtiteln ist es wie mit Filmen insgesamt. Irgendwann sind sie, wie sie sind, und dann muss man so tun, als ob es immer so gedacht gewesen wäre. Da darf man nicht mehr dran rütteln und nicht mehr drüber nachdenken.
Donc, avec les titres des films, c'est exactement qu'avec les films eux-mêmes, à un moment, ils sont comme ils sont, et puis il ne faut plus y toucher, il faut prétendre que depuis toujours, c'était pensé comme ça.
Bon. Passons l'extrait et peut-être on reviendra là-dessus. Donc le film date de 2011. Donc là nous avons vu deux bouts de séquences qui se suivent. Pour peut-être avoir une idée aussi de la manière dont ces films mosaïques sont composés. Par des grandes séquences mais qui se répondent en quelque sorte ou qui forment un tout. Il faut voir les films dans leur intégralité évidemment. Et je dirais, pour revenir à la notion, au titre Abendland, qui n'est plus une notion très habituelle dans l'allemand courant aujourd'hui, on parle de l'Ouest aussi, de Westen, l'Occident. Et donc Abendland fait penser aussi à Oswald Spengler, par exemple, le Untergang des Abendlandes, une manière pessimiste peut-être de penser la morphologie de l'histoire du monde. Moi je dirais que dans ce film, même s'il nous parle des constellations écologiques menaçantes, un transport de déchets nucléaires contre lequel les activistes se mobilisent, une manière de assez musclée hein, d'affronter la migration. Je dirais qu'il ne s'agit pas tellement de filmer un déclin, mais, pour le dire avec Musil, de faire de la vivisection, c'est-à-dire une observation du vivant. Et ce qui est frappant dans tous les films de Nikolaus Geierhalter, c'est un grand moment de réflexivité qui est à un moment donné ou produit par la manière dont la caméra est posée, dont tu filmes, dont tu cadres, dont tu poses ou soulignes la présence du regard. Il y a dans ce film des séquences où c'est beaucoup plus explicite encore, une séquence précédente filmée dans un studio de porno où la police répète pour le jour J où est formée. Mais ce qui m'intéresse, donc ma question serait, porterait sur ces deux séquences qu'on vient de voir, où tu filmes des processus sociaux, où tu t'intéresses une fois à la manière dont des grands groupes se comportent, des activistes et face aux activistes la police allemande, ou encore dans un huis clos, un entretien entre une femme qui propose à un migrant un entretien de l'aide dans un dispositif de retour. Alors ma question serait, quel rôle joue dans ce genre d'observation ton propre regard et comment tu décides ou tu détermines ta propre position d'observateur? Enfin, tu as parlé tout à l'heure du fait de la confiance que tu peux obtenir, mais est-ce que tu peux en dire un peu plus par rapport aux deux séquences qu'on vient de voir ?
Ja, also bei Abendland, auf den ersten Blick ging es darum, Europa bei Nacht zu zeigen. Aber natürlich hat mich viel mehr interessiert, wie Europa funktioniert und wie wir glauben, dass wir dieses Abendland, das ja jetzt historisch als Begriff auch immer so ein bisschen sich erhaben dargestellt hat, wie wir das glauben, beschützen zu müssen, was so die Mechanismen sind, wie Grenzen gezogen werden, wer darf drinnen bleiben, wer darf rein, wer darf nicht hinein. Dieses Gespräch, das hier gefilmt wurde, war ja auch kein Hilfsangebot, das war ein Abschiebegespräch, das war ja eigentlich sozusagen ein Versuch, jemanden, der kein Asyl bekommen hat, auf die freundliche Art zum freiwillig Zurückkehren zu bewegen. Das waren so Grundthemen, die sich durch Abendland durchgezogen haben. Ja, wer sind wir, dass wir glauben, sozusagen diese erhabene Kulturnation, jetzt nicht nur als Nation, aber eben als Europa zu sein, und andererseits, wie gehen wir damit um, dass einfach sozusagen unser Leben ja auch ganz viel auf Ausbeutung anderer Menschen und anderer Kontinente beruht und diese Menschen natürlich berechtigterweise jetzt hier anklopfen.
Donc dans ce film, il s'agissait tout d'abord de montrer l'Europe la nuit et aussi comment fonctionne cette Europe qui a une image d'elle-même assez, assez noble historiquement, et comment cette Europe va se protéger contre ceux qui veulent venir en Europe, qui a le droit de venir, qui n'a pas le droit, qui a le droit d'être dedans, qui n'a pas le droit d'être dedans. Et cet entretien qu'on voit, ce n'est pas une proposition d'aide, c'est une façon polie et plutôt aimable d'inciter quelqu'un à un retour volontaire, quelqu'un qui n'a pas eu l'asile et qui n'a pas le droit de rester, de lui proposer quand même de s'en aller. Et ce sont ces thèmes-là qui traversent tout le film, que cette richesse de cette Europe qui a une si belle image d'elle-même se repose quand même sur l'exploitation des autres et ces autres qui maintenant, à juste titre, frappent à la porte de l'Europe.
Und es gibt eben ganz viel, was in der Nacht passiert. Einerseits laufen Systeme 24 Stunden, die uns so als Europa am Laufen erhalten, und andererseits passieren viele Dinge in der Nacht, die auch vielleicht nicht gesehen werden sollen. In jedem Fall ist dieser Blick auf Europa in der Nacht, das hat uns ermöglicht, einfach genau hinzuschauen und auch Vorgänge zu zeigen in einer konzentrierteren Art und Weise, weil in der Nacht sowieso alles konzentrierter passiert, weil die Menschen müde sind, weil es zweckorientiert ist oder so. Also in der Nacht hat Europa ein ganz anderes Gesicht und innerhalb von diesem Setting, das durch diesen Begriff Abendland mal relativ, sage ich mal, neutral vorgegeben ist, ja, war das dann sehr spannend, uns auf genau diese Themen wie eben Migration und das System Europa, wie es als Staatsmacht funktioniert, wie es geht auch ganz stark darum, wie wir als Europäer eigentlich vom Geborenwerden bis zum Sterben durch Systeme durchgeschleust werden, die alle 24 Stunden rennen. Ja. Also es war dann das Arbeiten in der Nacht eigentlich so ein Vehikel, um konzentrierter und genauer dorthin schauen zu wollen, wo ich eigentlich das Publikum hinbringen wollte.
Donc beaucoup de choses se passent la nuit. Il y a des systèmes qui tournent 24 heures sur 24 pour maintenir en fonction cette Europe. Il y a plein de choses qui se passent qu'on ne devrait pas voir ou dont on ne veut pas qu'on les voit et qu'on pouvait montrer. Et le fait de montrer l'Europe la nuit permettait un regard beaucoup plus précis, de conduire vraiment le public à regarder des choses que je voulais leur montrer, d'être plus attentif et de mieux mettre en évidence des processus, parce que tout se passe avec plus d'évidence, parce que les gens sont fatigués, tout est plus ciblé. Et cette proposition de Abendland était au départ une proposition assez neutre qui permettait donc de voir comment des thèmes comme la migration, comment le système, les puissances étatiques et leur fonctionnement agissent. En même temps, j'ai montré dans ce film aussi comment nous, les Européens, sont gérés par le système de la naissance à la mort, et cela était plus facile et plus visible et plus concret peut-être en le montrant la nuit.
Je voudrais peut-être revenir sur la position de la caméra ou sur l'intérêt qui ressort de certaines séquences de ce film, y compris les deux qu'on vient de voir. C'est un certain intérêt porté vers le jeu, je dirais le théâtral, la répétition au sens de probe, de répéter pour un événement, ou peut-être aussi au sens d'une répétition d'un procédé qui se répète tous les jours. De ce point de vue, tu t'intéresses aussi aux règles, ou tu montres par là les règles qui sont en jeu dans nos démocraties, enfin dans l'Occident. Est-ce que tu vois une proximité ou une affinité avec certains cinéastes qui s'intéressent aussi à ce type de situation théâtrale, performative, comme Frederick Wiseman ou Haroun Farrokhi? Tu as mentionné tout à l'heure Ulrich Seidel pour la composition de tes plans. Et là, je dirais, on voit les deux éléments, l'intérêt pour des processus et toujours une conscience, une réflexivité par rapport à ce qu'est ton regard, le regard que ton film produit.
Naja, also meistens, wenn ich ein Bild einrichte, dann bespreche ich das ja auch mit den Protagonisten und Protagonistinnen und sage ihnen genau, von hier bis hier geht das und da werden wir jetzt filmen, entweder ein Interview oder eben eine Alltagshandlung, was auch immer. Und ich beschreibe das auch und sehe es auch so immer wie eine Art Bühne. Ja. Ich sage es auch den Leuten, schaut her, das ist jetzt quasi die Bühne, von hier bis hier geht die und ihr spielt euch jetzt selber. Natürlich filmen wir euch, wir sind nicht hier, aber eigentlich könnt ihr uns wieder vergessen. Ich glaube nicht daran, dass man ein Filmteam so schnell vergisst. Ja, man wird nicht unsichtbar. Es ist immer ein Prozess des Filmen und gefilmt werden. Und ich habe das lieber auf Augenhöhe mit allem, sozusagen, mit aller Offenheit. Ja. Und deswegen hat dieses Bühnenhafte für mich sehr viel Wahrheit. Weil sobald jemand im Film vorkommt, wird gespielt. Das ist nicht mehr Realität. Es ist eine Selbstinszenierung und es ist der Versuch, sozusagen eine Realität nachzuspielen. Aber sobald eine Kamera läuft, die sichtbar ist, reden wir hier von einer Situation, die eine Imitation einer Wahrheit ist oder so. Ja. Und gibt es was zu sagen?
Nein.
Achso, ja.
Oui, quand je fais mes cadrages, bien sûr, je parle avec les protagonistes, soit dans une situation d'interview, soit dans une action du quotidien que quelqu'un est en train de faire. Et effectivement, je leur montre de là à là, vous pouvez aller, vous serez filmé. Donc c'est clairement une situation de plateau, de théâtre. Je leur dis aussi, vous pouvez oublier qu'on vous filme. Mais évidemment, ce n'est pas facile d'oublier qu'on est filmé. Et je préfère de parler avec les protagonistes à hauteur des yeux parce que effectivement, ce n'est plus la réalité. Une fois qu'on est devant une caméra, c'est une situation théâtrale. On joue quelque chose et j'assume complètement le fait que c'est comme ça. Jetzt weiter.
Also wenn wir jetzt zum Beispiel von diesem Gespräch reden, das wir gefilmt haben mit dieser Frau, die für diese IOM arbeitet und die diesem Mann erklärt, dass er keine Chance haben wird, ja. Das ist zum Beispiel so entstanden, dass wir vorher gefragt haben, ob wir so ein Gespräch drehen können. Und diese Frau hat dann herumgefragt und hat ihn gefunden. Das Gespräch war echt. Er hat zum ersten Mal diese Sachen gehört. Aber natürlich hat er und hat sie, wir haben vorher gewusst, da hier wird die Kamera stehen. Er hat gesagt, er möchte gerne, es ist okay, dass er gefilmt wird, aber er möchte sein Gesicht nicht erkannt haben. Deswegen war dann auch die Richtung einfach so. Und das ist genau die Situation. Also wir haben das vorher mit allen besprochen und quasi hier ist die Bühne, hier spielt jetzt diese Geschichte und trotzdem war nicht klar, was passieren wird. Ihm war es nicht klar, ihr war es nicht ganz klar. Das Gespräch hätte anders verlaufen können. Also wir haben jetzt nicht ein Gespräch, das vorher schon passiert ist, nachgespielt. Aber es war ganz klar, dass dieses Gespräch auch für die Kamera in diesem Raum, in diesem Bild passieren wird.
Donc, pour revenir aux extraits montrés, vous vous souvenez de cet entretien entre la dame et ce jeune homme qui sait qu'il n'a pas le droit de rester. Évidemment, nous avons parlé avec elle pour lui demander si elle acceptait qu'on filmait un tel entretien. Elle a elle-même après demandé à des candidats s'ils acceptaient d'être filmés. Et quand on avait trouvé nos deux protagonistes, ils savaient exactement où était la caméra. Bien sûr, il y avait cette requête du jeune homme de ne pas montrer son visage. Donc ça a fixé la direction du regard. Et c'était bien sûr comme un plateau. En revanche, on ne savait pas ce qui allait se passer pendant cet entretien parce que cet entretien n'a pas été répété. C'était comme ça que ça se passait. Mais tout le monde était au courant de la situation.
Pour rester avec l'exemple qu'on vient de voir, en fait, ces séquences de Abendland, Occident, il me semble dans plusieurs de tes films, y compris Pripyat, dont on ne verra pas d'extrait maintenant, on n'aura plus le temps, tu montres souvent des milieux, des paysages par exemple, des habitats, qui peuvent servir à des usages très variables. Et là, on vient de voir cette forêt nocturne où des rails passent, où il y aura un transport nucléaire à prévoir, et des activistes qui préparent le blocage des rails, et puis des jeunes qui entendent la musique et qui se rendent à une rave party. Qui veulent danser parce qu'il y a aussi la musique et il y a la police qui va qui a le devoir ou la fonction de déblayer le terrain. Donc ce qui me semble, ce qui t'intéresse aussi, c'est de montrer à partir d'un milieu les tensions ou l'éventail des usages des très très variables de ces lieux et de ces lieux qui sont toujours des lieux de civilisation et des lieux sociaux. Comme tu dis, même si tu ne montres pas des humains, tu montres leurs traces. Il n'y a pas de nature sans civilisation, très peu en tout cas. Alors, je reviens vers ma question de tout à l'heure. Est-ce que tu te sens une affinité avec certains cinéastes qui s'intéressent à ces situations théâtrales ou encore avec des photographes comme Walker Evans, qui s'intéresse à cette relation entre l'homme et son milieu?
Ich könnte jetzt hier keinen Namen nennen, einfach weil ich ja hauptsächlich das Gefühl habe, dass ich für mich die Filme mache über die Themen, die mich gerade interessieren, und meine Arbeit ist eigentlich eine sehr autistische auf eine gewisse Weise. In dem Sinn, als ich so als, ich glaube in der Branche so ein bisschen als Insel funktionierend, als Institution und auch wirklich gar nicht so intensiv mich mit den Arbeiten von Kollegen und Kolleginnen auseinandersetze. Ich zwinge mich manchmal zum Beispiel, wenn ich gefragt werde, bei einem Festival in eine Jury zu gehen, einfach um ein bisschen mitzukriegen, was so passiert. Aber hauptsächlich beschäftige ich mich mit meinen eigenen Filmen und wenn sie fertig sind, dann ist es auch gut. Dann muss ich nicht noch ins Kino gehen.
Je ne pourrais pas maintenant citer des noms. En fait, je fais des films sur des thèmes qui m'intéressent et mon travail a presque un côté autiste. Je suis comme une sorte d'îlot et donc je regarde très rarement les travaux des autres. Parfois, je m'y force quand je suis invitée à faire partie d'un jury de festival. Je regarde un petit peu ce qui se passe autour de moi. Mais quand mes films sont terminés, c'est terminé et j'ai plus besoin d'aller au cinéma.
Alors, je conclue peut-être avec une dernière question avant de vous donner la possibilité d'en poser d'autres. C'est peut-être ton regard sur tes propres films. On a parlé tout à l'heure de Échoué, Angeschwemmt, que tu as jugé comme une sorte de premier essai d'explorer la cinématographie. Quand, par exemple, tu revois Pripyat, tourné en 1999, donc film où tu es 12 ans après la catastrophe nucléaire dans la centrale de Tchernobyl, retourner sur les lieux pour voir ce que font les usagers habitants de cette zone ou au-delà de cette zone, entre guillemets, comment est-ce que tu vois ces gestes aujourd'hui, tes propres gestes de l'époque? Pour nous, ça a sans doute une grande actualité avec la guerre en Ukraine. Mais à part ça, qu'est-ce que toi, tu, est-ce que dans des situations comme ça, dans des rétrospectives, est-ce que tu vois aussi déjà cette portée de ces films qui enregistrent sur le vif quelque chose qui travaille dans le futur?
Also Pripyat hatte natürlich ein ganz anderes Thema, als es jetzt durch diesen Ukraine-Konflikt vielleicht auch noch bekommen hat. Da ging es einfach ganz klar darum, was passiert, wenn ein Atomkraftwerk außer Kontrolle gerät. Ja? Ich komme auch aus einem Land, wo Atomkraft überhaupt kein Thema ist und wo es unvorstellbar wäre, sowas in Betrieb zu nehmen. Und ich weiß, dass ich hier in einem Land bin, wo sehr viel Strom aus Atomkraft kommt. Also Pripyat war ein eindeutiges Statement gegen Atomkraft und ist aber natürlich auch auf eine Art und Weise gestaltet, wie Filme, die in einem Archiv liegen und die man jetzt auch mal anschauen kann und auch in einen anderen Kontext bringen kann. Und natürlich denke ich mir jetzt auch, okay, was ist eigentlich aus diesen Orten geworden oder sowas? Ja, das ist so. Aber Filme, die Teil der Filmgeschichte werden, sind ja dazu da, immer wieder ein neues Leben zu bekommen. Das ist einfach so wie, das sind so wie Bausteine, die man schafft und man weiß ja selber nicht, zu was sie später zusammengebaut werden.
Donc Pripyat avait un tout autre sujet au départ que le sujet qu'on peut maintenant y voir à cause de l'actualité du conflit en Ukraine. C'était clairement une prise de position contre l'énergie nucléaire. Je viens moi-même d'un pays où il n'y a pas de centrale, alors qu'en France, il y en a beaucoup. Et bien sûr, quand on fait des films pour des archives du futur, quand on les regarde, on peut les réinterpréter, les récontextualiser. Et je crois que c'est un mouvement tout à fait normal pour ce type de film.
Aber irgendwie sind einfach Filme auch wie Kinder, die entwickeln, sobald sie fertig sind, ein eigenes Leben, haben eine eigene Karriere, manche weniger, manche mehr. Und es ist vollkommen unberechenbar, was dann passieren wird. Ja? Und deswegen, genauso wie man Kinder gehen lassen muss, muss man Filme auch gehen lassen. Und ich weiß es ja auch, wenn Filme fertig werden, so ein, zwei Festivals, drei Festivals, das finde ich manchmal interessant, weil da noch ein Feedback kommt, das mich interessiert. Aber irgendwann einmal gehen Filme einfach ihre Wege und sind Teil der Kulturgeschichte und was dann passiert, ist vollkommen außer meiner Vorstellung und auch außer meiner Reichweite sozusagen.
En fait, les films, c'est comme des enfants. à un moment, c'est des adultes, ils partent, certains font une carrière plus intéressante que d'autres, et il faut les laisser partir. Et ce qui m'intéresse peut-être au début, pendant 2-3 festivals, c'est un petit peu l'accueil qu'on leur réserve. Mais après, ces films font partie de l'histoire culturelle, et c'est totalement en dehors de mon contrôle.
On me signale que en fait on n'a plus le temps de passer la parole au public, mais je vous invite donc au nom des organisateurs de cette rétrospective à explorer, à voir, à suivre les films de Nikolaus Geierhardt, qui ne sont pas seulement des sismographies de notre monde de la mondialisation, mais aussi les films qui explorent le régional et le détail de l'homme et de son milieu. Et je laisse la parole donc à Julien. Oui.
Ben moi, je voulais juste remercier énormément Nikolaus pour s'être prêté à cet exercice, et puis à Christa et à Cornelia pour toutes ces traductions et ces questions. Voilà, il est effectivement, malheureusement, il y a un temps imparti, puisqu'on doit démonter le décor, puisqu'à 20h, Nikolaus va vous présenter son avant-dernier long métrage, Terre. Voilà, donc merci beaucoup pour votre présence, et on espère vous voir dans 15 minutes. Merci.